Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. Comme chaque samedi, à la une, les crimes inexcusables pour la République de la tragédie du 17 octobre 61. Emmanuel Macron a assisté à la cérémonie officielle pour les 60 ans de ce massacre d'Algériens commis cette nuit-là lors d'une manifestation réprimée dans le sang. Officiellement 3 morts, mais selon les historiens, des dizaines, voire plus d'une centaine, avec des corps jetés dans la Seine. Pour la première fois, un président français parle donc de crime. On y reviendra avec l'historien Gilles Manceron. Ce samedi 17 octobre était aussi une journée hommage à Samuel Paty, dans sa ville, son collège et à l'Élysée. Ce soir, un an après son assassinat par un islamiste, nous serons dans ce collège de Conflans-Sainte-Honorine où ses collègues ont salué sa mémoire. Une plaque a été dévoilée au ministère de l'Éducation. Et ce matin sur RTL, Jean-Michel Blanquer a révélé que les hommages rendus hier dans les établissements scolaires avaient donné lieu à 98 incidents. Le 112 à l'essai, dès début 2022, un numéro unique d'urgence sera expérimenté dans une vaste zone de l'Hexagone. Et cela, pendant 2 ans, en lieu et place des 15, 17 ou 18. Plusieurs systèmes vont être testés pour évaluer la méthode la plus efficace, annonce faite par Emmanuel Macron au Congrès national des pompiers aujourd'hui. 220 millions d'euros. Un Français a donc décroché hier soir la plus grosse cagnotte de l'euro-million jamais versée pour un joueur en Europe. Le gagnant a maintenant 60 jours pour se faire connaître. Mais peut-être n'est-il même pas encore au courant. En tout cas, on va voir comment la Française des Jeux va gérer ce cas et entendre aussi vos réactions en apprenant, c'est vrai qu'on a fait une petite simulation, que c'est vous le gagnant. Le football, la 10e journée de Ligue 1. Depuis 17h, Clermont affronte Lille. On en est où, Guillaume Frixon?
Et c'est la mi-temps à Clermont et des sourires pour les supporters clermontois puisque le Clermont Foot mène sur sa pelouse 1-0 grâce à Vital Nsimba. Une frappe à l'entrée de la surface à la 31e minute. Clermont mène donc face à Lille à la mi-temps. 1-0.
Et on vous retrouvera dans 20 minutes, Guillaume. Ce soir à 21h, ce sera Lyon-Monaco à suivre dans RTL Foot. Le quintet d'Auteuil, 15, 12, 13, 3 et 14. Et puis le temps, Valérie Quintin, on est quand même assez gâtés.
Oui, et encore pour la journée de demain. Cela dit, il y aura un petit peu de changement sur la façade ouest avec un ciel bien chargé de la pointe bretonne jusqu'au Pays Basque. On pourra avoir quelques averses, principalement sur le Finistère ou encore les Pyrénées-Atlantiques. Pour les autres, un temps toujours très ensoleillé, passé les brouillards du matin. Le soleil sera tout de même passablement voilé l'après-midi entre le nord et les Pyrénées. Restent les températures qui seront à peu près dans le même état, mais en baisse quand même au petit matin. De moins 1 degré à Auxerre, à 12 degrés à Nice au réveil, avec 6 à Paris, à Aubenas, à Saint-Brieuc. Dans l'après-midi, fourchette de 14 à 23 degrés, 15 pour Mulhouse, 16 à Lille, 18 à Paris et Lyon, 20 degrés à Nantes et 22 à Toulouse et Bordeaux.
Merci Valérie.
RTL Soir, Vincent Parisot.
Avant de revenir sur cette journée d'hommage à Samuel Paty et de commémoration de la répression sanglante du 17 octobre 61, revenons avant cela sur le jackpot qui est dans toutes les conversations depuis hier soir ou ce matin. Un Français a donc remporté le tirage historique de 220 millions d'euros à l'euro-million. C'est la plus grosse cagnotte jamais remportée en Europe depuis la création du jeu. 220 millions d'euros, évidemment, ça fait rêver. Encore faut-il encaisser la nouvelle, hein. Raphaël Vantard, vous avez donc demandé à des Lyonnais, avec un brin de malice, leur réaction en imaginant que ce sont eux les gagnants.
La réaction la plus attendue serait sans doute celle-là. Et pourtant, face à la somme vertigineuse, 220 millions d'euros, vous êtes nombreux, très nombreux, à penser avoir un tout autre comportement. Myriam et sa copine Isabelle seraient plutôt du genre à complètement vaciller.
Moi, je crois que je ferai une attaque. Parce qu'une somme pareille qui nous tombe dessus, là, tout d'un coup...
Et vous, madame, alors?
Je crois que je me liquidifie. Je n'existe plus, je suis une flaque d'eau. Oui, voilà.
Face à un tel jackpot, une seule solution pour Jennifer, pleurer, pleurer et encore pleurer.
De joie, quoi. Enfin, toute notre vie qui change. Je crois que j'aurais du mal à réaliser.
Et puis il y a les rêveurs, ou plutôt les prévoyants, comme Aymeric, qui ont déjà planifié, mis en scène, presque scénarisé ce moment où ils décrocheraient la cagnotte aux millions d'euros.
Franchement, je vérifierais à 2 fois, voire même 3 fois si j'avais les bons chiffres. Peut-être que je pleurerais. Je pense que je reviendrais avec un gros cadeau énorme et j'irais, regarde, on est millionnaire maintenant.
Et passer cette réaction, pas toujours très simple. Tout le monde, en revanche, a beaucoup, beaucoup d'idées pour dépenser les millions, donner aux proches, aux plus démunis, à la recherche contre les maladies, voyager, bref, une autre vie.
Oh, la belle vie.
Ah, c'est certain que les idées ne manquent pas. Merci Raphaël Vantard. En tout cas, peu d'informations et même aucune d'ailleurs sur le gagnant de ces 220 millions d'euros. Arnaud Touche, son identité est évidemment tenue secrète. D'ailleurs, sait-on seulement s'il est au courant ?
Oui, Marc se rend chez son buraliste et lorsqu'il passe son ticket, son détaillant lui indique qu'il doit aller au centre régional de paiement car le gain est au-delà de 30 000 euros. Il s'y rend avec sa femme, Sophie.
La personne est arrivée, nous a dit « ça fait un petit moment qu'on vous cherche ». Je fais « comment ?»« Mais oui, parce que vous êtes un grand gagnant et on vous cherchait ». Et après, la dame est venue, nous a dit « est-ce que vous voulez savoir le montant ou je vous l'écris ?» J'ai dit, mais écrivez-le, il vaut mieux qu'on est assis. Et donc, c'était 4 millions, 500 millions. Tout cet argent, comment on va gérer ça? On était peu perdus.
Pour aller toucher le pactole, ils doivent se rendre à Paris, au siège de la Française des Jeux, une semaine après. Et pendant ce temps, il faut bien garder son ticket.
Et c'est là que...
On a trouvé une petite cachette, on l'a planqué au milieu des bouteilles d'apéro.
Leur compte courant est crédité de 4,5 millions d'euros.
Quand même, on a prévenu notre banquier, qui lui est tombé à la renverse.
Ils aident leur famille, mais ne veulent pas dévoiler le montant. Ils s'achètent 2 voitures, une maison, mais c'est surtout le quotidien qui change.
Alors voilà, vous l'avez compris, petite difficulté technique qui nous a mis dans l'impossibilité d'écouter Arnaud Touche. On a bien compris que là aussi, on avait affaire à une affaire de gagnant du loto, 220 millions d'euros d'ailleurs, donc pour cet homme qui a, ou cette femme, qui a maintenant 60 jours pour se faire connaître. Cela fait un an très exactement que Samuel Paty était assassiné. Des hommages se sont déroulés aujourd'hui dans le Val d'Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait et à Paris ce soir où sa famille est reçue à l'Élysée. Dans l'entrée du ministère de l'Éducation nationale, une plaque a été inaugurée ce matin par Jean Castex en présence de nombreux ministres de l'Éducation. Et ce matin également, plusieurs centaines d'habitants d'Éragny-sur-Oise où il vivait se sont réunis pour une cérémonie. Mais cet après-midi, c'est la mairie de Conflans-Sainte-Honorine qui a dévoilé un monument sur l'une des places centrales de la ville. Vous y étiez, Mourad Djabari. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à Conflans, en fait, l'hommage s'est déroulé en deux temps. Il a commencé au collège de Samuel Paty.
Oui, à l'abri des regards, loin des caméras et des micros, 300 élèves, parents d'élèves et professeurs se sont réunis à l'intérieur du collège grâce à des haut-parleurs. Leur voix, leur hommage résonne alors dans les rues de la ville.
Nous souvenons que Samuel semblait toujours calme et qu'il portait toujours ce sourire tranquille qui le caractérisait si bien.
Rien n'est plus comme avant.
Samuel restera jamais présent dans nos vies, dans nos plans et dans notre collège.
À l'extérieur, des habitants, le visage grave, le regard perdu, s'enchaînent des discours, des chants, le poème « Liberté » de Paul Éluard, ponctué à chaque fois par des applaudissements et des silences pesants. Des parents serrent parfois leur enfant contre leur poitrine. Et puis la foule s'est dirigée place de la Liberté, à 300 mètres du collège, où le maire de Conflans, Laurent Brosse, a pris la parole.
J'appréhendais depuis plusieurs jours ce moment précis où je serais amené à revenir devant vous sur cette soirée douloureuse du 16 octobre 2020. Un jour qui s'est terminé dans l'horreur. Un an après, nous avons séché nos larmes, nous avons pansé nos blessures, nous avons repris le cours de nos vies sans pour autant oublier ni pardonner.
À ses côtés, des élus, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, devant plus de 500 personnes, des habitants, mais aussi Myriam en classe de 3e, qui n'est pas d'ici et pourtant elle voulait être là.
Et l'an dernier, j'avais pas forcément compris ce qui s'était passé. Et là, j'avais besoin d'être là. J'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver là. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais de là à faire ça, non.
Avant de se disperser, la foule a pu découvrir un monument installé sur la place, un livre géant ressemblant à une bande dessinée où on peut lire dans chaque vignette le mot « liberté ».
À Conflans-Sainte-Honorine, donc Mourad Djabari pour RTL. Et puis invité d'RTL ce matin, Jean-Michel Blanquer a révélé que sur l'ensemble des hommages rendus hier à Samuel Paty dans les écoles, collèges et lycées, eh bien il y avait eu 98 incidents, dont 7 menaces recensées. Le ministre a souligné que c'est beaucoup moins que lors des attentats précédents, mais ça fait quand même près d'une centaine, Marie Guerrier.
Oui, 98 incidents, 2/3 des académies en ont fait remonter au moins un. Ça concerne surtout l'Île-de-France, Lille, Lyon, Marseille. Il s'agit essentiellement de contestations, des élèves qui tiennent des propos insultants ou qui disent n'importe quoi, note le ministère, des faits isolés en général, peu d'effets de groupe. Et puis il y a aussi 7 incidents signalés comme des menaces. Chacun de ces cas est pris au sérieux pour voir ce qui relève du propos à l'emporte-pièce ou de la réelle volonté de nuire. Les familles sont convoquées. Tous les incidents seront traités en fonction de leur gravité, des conseils de discipline déjà en préparation et ça peut aller jusqu'au dépôt de plainte. Les académies de Montpellier, Versailles, Créteil, Nice et Reims ont pris contact avec la préfecture, la police et le parquet pour d'éventuelles suites à donner.
Marie Guerrier, courte pause. Il est 18h09 et dans un instant, le 17 octobre 61, pour la République, un crime inexcusable, selon Emmanuel Macron.
RTL Soir. RTL Soir, Vincent Parizeau.
Pour la première fois cet après-midi, un président de la République a donc participé aux commémorations du massacre des Algériens à Paris. C'était il y a 60 ans, jour pour jour, le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'indépendance. Une manifestation à l'appel du FLN avait été violemment réprimée par la police. Bilan officiel, 3 morts. Mais lors de cette nuit sanglante, au cours de laquelle au moins 12 000 Algériens avaient été arrêtés, eh bien selon les historiens, il y a eu au moins 120 tués. Cet après-midi, le président était présent. Il n'a pas pris la parole, mais un communiqué de l'Élysée parle de crimes inexcusables. Marie-Bénédicte Allaire, vous étiez à Colombes pour cette cérémonie.
Oui, une cérémonie d'une grande sobriété au pied du pont de Beson. Devant une quarantaine de personnes, Emmanuel Macron dépose une gerbe. Des enfants et petits-enfants de personnes assassinées jettent des roses blanches dans la Seine. La présence du chef de l'État, mais aussi le texte diffusé par l'Élysée. Le président y reconnaît que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. C'est la première fois qu'un président français qualifie les faits de crimes. Mais pour Mehdi Lalaoui, président d'une association de descendants des victimes algériennes, c'est insuffisant.
On est très déçus. Les assassins ne sont pas nommés. Il n'y a que Maurice Papon qui est nommé. On peut assassiner des dizaines de personnes au cœur d'une capitale, d'une société démocratique, sans qu'il y ait ni poursuite, ni que ces gens soient nommés.
Dans son texte, Emmanuel Macron évoque la jeunesse et souhaite qu'elle ne soit pas enfermée dans les conflits de mémoire et puisse construire l'avenir. L'un des représentants de la troisième génération lui répond.
Nous faisons partie intégrante de l'identité nationale. Nous sommes la France. Et pour nous projeter ensemble, sereinement, vers un futur commun, nous attendons aussi des actes qui le prouvent, tels qu'une exemplarité des institutions sur la question du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations.
Construire l'avenir, oui, mais sans oublier le présent, c'est le défi que lancent les jeunes à Emmanuel Macron.
Marie-Bénédicte Allaire, au pont de Beson pour RTL. Invité d'RTL Soir, l'historien spécialiste du colonialisme français, Gilles Manceron. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous étiez présent cet après-midi à cette cérémonie au pont de Beson. Pas de discours d'Emmanuel Macron, mais donc ce communiqué de l'Élysée qui parle des crimes inexcusables pour la République commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon. C'est un pas supplémentaire. On se souvient que François Hollande avait parlé en 2012 de sanglante répression. Là, pour la première fois, un président français parle de crime.
C'est un pas supplémentaire, on peut le dire, hein, mais c'est un communiqué qui, à mon avis, ne donne pas satisfaction pour ce qui concerne la connaissance de cet événement, puisqu'il désigne les responsabilités du préfet de police de la Seine, Maurice Papon, mais ce n'est pas le seul responsable. Pour une répression d'une telle ampleur, il y avait forcément des décisions au-dessus de l'autorité du préfet de police.
Vous voulez dire qu'il aurait dû évoquer la responsabilité de l'État français, de la République ?
Oui. Alors, la République, il l'évoque, hein, puisqu'ils sont inexcusables pour la République. Mais il n'emploie pas le terme de crime d'État. Crime d'État, c'est pourtant la revendication des associations mobilisées. Donc, il n'a pas employé les termes de crime d'État. Les responsables au-dessus de Maurice Papon ont une responsabilité très lourde dans l'organisation de la répression qui a culminé avec cette nuit du 17 octobre 61.
Vous voulez dire qu'à vos yeux d'historien, ce pas supplémentaire est encore insuffisant ?
Ben écoutez, hein, chacun des travaux qui paraît fait faire des progrès. Donc, il reste du travail à faire pour les historiens, pour établir les responsabilités dans ce crime, parce que c'est un événement d'ampleur considérable qui a été l'objet d'un déni.
Ouais, travail de transparence, vous dites. C'est vrai que le bilan officiel, il est de 3, que le nombre des morts, il est estimé par les historiens à plusieurs dizaines, voire au moins une centaine, voire certains disent 200. La France, les archives, la police, la préfecture, ont-elles le bilan précis de cette tragédie ?
Ça serait aux historiens de l'établir, à partir des archives conservées. Et ce travail a été entravé par des fermetures d'archives auxquelles se sont heurtés les historiens qui voulaient établir véritablement un bilan.
Alors, il y a eu le 25 septembre dernier la journée d'hommage aux harkis. Aujourd'hui, cette reconnaissance de ces crimes inexcusables. Le 19 mars, la commémoration des accords d'Évian. Est-ce que la France est en train de purger son histoire coloniale des non-dits ?
Écoutez, avec le président Macron, on est dans une volonté de mettre fin au déni. mais il avance à tout petit pas dans cette direction. Il est, il faut le dire, entravé au sein même de sa majorité, qui ne tiennent pas du tout à ce qu'il avance de manière significative dans cette direction.
Merci beaucoup, Gilles Manceron, historien, spécialiste du colonialisme. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL.
RTL Soir.
Faut-il mettre en place en France un numéro d'urgence unique comme dans de nombreux pays européens ou aux États-Unis ? Disons que le débat qui est sur la table depuis des années en France n'est pas encore tranché, mais un premier pas vient d'être fait puisqu'Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui au Congrès des sapeurs-pompiers l'expérimentation dès janvier prochain dans plusieurs départements d'une plateforme qui va centraliser tous les appels au 15, au 17 ou au 18. Ça va durer 2 ans. Objectif, savoir si ce système est plus efficace que l'actuel et s'il permet, comme l'assurent les pompiers, d'envoyer plus rapidement les secours les plus adaptés. À Marseille, Étienne Boutu.
Actuellement, vous disposez de plusieurs numéros d'urgence. Le 15 pour le SAMU, le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 17 pour la police ou les gendarmes, voire même le 116-117 pour obtenir un médecin généraliste. Cette multitude d'interlocuteurs est une perte de temps, explique Patrick Ergen, médecin et vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Lorsqu'aujourd'hui, vous appelez par exemple les sapeurs-pompiers pour quelque chose qui ne relève pas de notre mission, on va retransférer, en perdant du temps, à l'autre service. Lorsque arrive au centre 15, par exemple, un appel pour du secours, eh bien, on va nous rappeler en nous disant les sapeurs-pompiers, on a besoin de vous à telle adresse. On perd du temps, on se coordonne moins.
D'où cette solution d'un numéro unique qui dispatcherait tous les appels, c'est ce que veulent les pompiers. Mais il y a des réticences, en particulier les milieux médicaux qui défendent leur numéro d'appel, le 15. Emmanuel Macron ne veut donc sans doute pas froisser certaines susceptibilités à 6 mois de l'élection présidentielle. D'où cette expérimentation. Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Aujourd'hui, il y a une voie médiane qui va être l'expérimentation, ce qui va permettre aussi à notre pays de se mettre au diapason européen dans les temps qui sont les nôtres, mais surtout d'expérimenter et de concrètement trouver ensemble les meilleures solutions pour la population.
Et pour retenir ce numéro de secours, c'est facile. Une bouche, un nez, deux yeux, 1, 1, 2, le 112.
Eh bien voilà, c'est dit, on s'en souviendra. Merci Étienne Baudu, l'homme de 51 ans soupçonné d'avoir décapité une retraitée à Agde mercredi dernier, a été présenté à un juge d'instruction pour sa mise en examen qui devrait intervenir rapidement avant son incarcération. Annonce faite par le procureur de Béziers qui s'apprête à tenir une conférence de presse. RTL va la suivre et si des précisions sont apportées, nous les relayerons. Le meurtrier présumé est un ancien boxeur professionnel. Il assure n'avoir aucun souvenir du crime. 8 arrêtés sont parus hier au journal officiel autorisant les chasses d'oiseaux dites traditionnelles par piégeage, et ça malgré une décision du Conseil d'État qui les avait jugées illégales. Alors certes, ces arrêtés ont immédiatement été contestés devant ce même Conseil d'État et en justice par des associations, notamment la Ligue de protection des oiseaux. Mais voilà, en attendant cette décision, dans 2 ou 3 semaines sans doute, eh bien ces chasses traditionnelles ont pu reprendre dès ce matin. Et vous l'avez constaté dans les Landes, à Saint-Paul-en-Born, Denis Grandjou.
Oui, Bernard scrute l'horizon derrière les planches de sa petite cabane posée au beau milieu d'un gigantesque champ de maïs.
Vous pouvez écouter, on n'entend rien ici. On est au bout du monde, les filets sont devant. Et on scrute le nord. Quand on voit arriver les vols, on les siffle. Quand elles sont loin, quand elles sont proches.
Et ça, elles l'entendent.
Ah oui, elles l'entendent, oui.
Mais pas de vol, alors Bernard en profite pour rebondir sur les polémiques liées à la chasse ces dernières semaines.
Il y en a ras-le-bol. On veut nous formater les esprits, on veut effacer certaines cultures, certains arts de vivre. Il y en a marre à force. Moi, j'assume le fait que je tue les oiseaux. Oui. La mort dans la nature, c'est aussi naturel que la vie. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la vie.
Quant à sa propre chasse, l'alouette, qu'il attrape au filet, il explique qu'elle est loin de mettre en péril l'espèce.
Je ne sais rien, quand on arrive à faire une vingtaine d'alouettes, c'est déjà pas mal. Après, les moments sont calculés sur 1% de la population européenne à l'alouette. Et quant à certaines années, on n'y arrive pas.
La chasse à l'alouette se prolongera dans le sud-ouest jusqu'à la fin du mois de novembre.
Reportage dans les Landes signé Denis Grandjou. Le football avec la suite de la 10e journée de Ligue 1. Depuis 17h, Clermont affronte Lille au stade Gabriel Montpied et le score est toujours de 1-0 pour les Clermontois. Ce soir à 21h, Lyon-Monaco à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Et puis le rugby, le top 14. Victoire de Castres face à Biarritz, 38-20. De La Rochelle à Brive, 8-6. Du Stade français à Perpignan, 23-22. Et de Bordeaux-Bègle à Pau, 37-33. Courte pause et dans un instant, un métier mais aussi une passion.
RTL Soir.